mercato, costa meno del bianco costato, messaggeri di corte e di cortina, con il pedale ho perso la storia, l'altra verità ti scoppia in gola, anche se non arriverà via fax. Giornali, giornalisti e parrucchieri ci lavano le teste e invece no.
Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Diana Nannini. On vous retrouve dans Remue Ménage de Femmes la semaine prochaine. Radio Zone 93.8. Tous les mercredis, c'est les femmes, la parole aux femmes et les paroles, les chansons de femmes.
Notizie conosciute, viaggiano col treno più veloce. Tokyo, Kyoto in meno di due ore. Ma fino a Shanghai quanto ci vuole. Silenziosi slogan consumati. Vandali di guerre mai e sotto. E nel ritmo lento del lavoro. C'è chi dorme, c'è chi legge il muro. Giornali, giornalisti e parrucchieri. Ci bruciano le teste, invece no. Hey, apo, hey, apo.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz sur Radio Zone Nos Nouvelles. À Bangkok, un immense incendie ravage une usine de jouets. Plus de 200 personnes ont péri durant cet incendie. Quelques 213 mortes et quelques 550 blessés ont été dénombrés à l'issue du sinistre qui a complètement détruit lundi une usine de fabrication de jouets à Bangkok. Cet incendie a sans doute été provoqué par un court-circuit. Le bilan continue de s'alourdir, risque d'être nettement plus élevé encore, les 500 blessés étant en très très mauvaises conditions. La plupart des victimes sont des ouvrières, ce qui s'explique par le fait que la majorité des quelques 4000 employés de l'usine sont du personnel féminin. Des enfants figurent aussi parmi les victimes. En Thaïlande, les ouvrières assurent souvent la garde de leurs enfants, les emmenant avec elles sur leur lieu de travail. L'usine appartient à une société de Hong Kong, la Kader Holding, qui n'a fait aucun commentaire. Selon des témoignages des rescapés, le dispositif d'alerte et de secours dont disposaient les quatre bâtiments de l'usine n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie éclate dans ce complexe industriel. En 88 déjà, un incendie avait eu lieu et un autre remontait il y a juste 2 mois. Au Canada, Kim Campbell deviendra-t-elle la première femme de l'histoire à la tête du Canada ? Le premier ministre doit être remplacé. La course à la succession se déroule essentiellement entre 2 candidats, la ministre de la Défense, Kim Campbell, 46 ans, et le ministre de l'Environnement, Jean Charest. Les sondages donnent pour l'instant Mme Campbell gagnante. Sur le plan idéologique, les deux aspirants partagent les mêmes opinions. Ils sont résolument de droite, donc prêts à remettre en question plusieurs programmes sociaux, à diminuer les effectifs dans la fonction publique fédérale. Kim Campbell et Jean Charest joue à fond la carte de l'image, une première femme à la tête du pays contre le plus jeune premier ministre de l'histoire. Viol de guerre, les Coréennes réclament un tribunal international pour juger les responsables des viols commis par les soldats japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'ont demandé une centaine d'organisations non gouvernementales. On sait que 150 à 200 000 femmes asiatiques, essentiellement des Coréennes, ont été envoyées dans des bordels militaires organisés par l'état-major japonais. Les premières accusations partent en 1991 de Corée du Sud, où se constitue un conseil des femmes victimes de l'esclavage sexuel. Ce sont principalement des jeunes filles de 16 à 18 ans qui avait été recrutée dans des régions pauvres. Elle n'était même pas payée, elle recevait des tickets qui devaient être échangés contre de l'argent à la fin de la guerre. Les survivantes vivent aujourd'hui dans la misère. Depuis, d'autres victimes se sont fait connaître aux Philippines, en Chine, aux Pays-Bas. Le Japon a admis les faits, présenté des excuses tout en refusant d'établir des responsabilités en l'affaire et de faire figurer cet épisode peu glorieux dans les manuels d'histoire. Chaque mercredi, des femmes manifestent devant l'ambassade du Japon à Séoul, demandant notamment qu'une statue soit érigée en hommage aux femmes violées. Plusieurs victimes ou parents de victimes décédées ont intenté des actions en justice. 18 Philippines ont fait de même. Aux États-Unis, c'est la première fois qu'un président reçoit en personne une délégation homosexuelle, hommes et femmes. Très discrètement, il est vrai. Il fallait tenir promesse et accepter d'écouter un groupe qui l'a soutenu politiquement et financièrement dans sa campagne. La discussion a porté sur la lutte contre le sida, le statut des homosexuels dans l'armée qui, pour l'instant, ne veut pas d'eux. La crise gouvernementale entre le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Éducation a fait presque briser le gouvernement israélien et menacer le processus de paix. Pour se maintenir dans la coalition, le parti religieux Ch'as exigeait en effet la démission du ministre de l'Éducation. Le gouvernement a traversé donc une crise qui a vraiment mis en danger le processus de paix engagé avec les Arabes et les Palestiniens. Si cette crise avait débouché sur un éclatement de cette actuelle coalition au pouvoir à Jérusalem, on a risqué le pire. La crise a éclaté après que le ministre de l'Intérieur, Arié Dery, chef du parti séfarade religieux Ch'as, eut menacé de démissionner si Shulamit Aloni, ministre de l'Éducation et leader du parti d'extrême gauche Meretz, ne quittait pas au plus vite ses fonctions. Ce n'est pas la première fois depuis la formation de l'actuel gouvernement en juin dernier que le Ch'as demande la démission de l'actuel ministre de l'Éducation, fervente partisane de la laïcisation de la vie israélienne, réputée pour son franc-parler. Shulamit Aloni avait notamment mis en cause il y a quelques semaines la légitimité de deux grands rabbins d'Israël. Récemment, elle avait reproché au Premier ministre d'avoir récité la prière juive traditionnelle lors des cérémonies du 50e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, déclarant que ce soulèvement n'avait rien à voir avec la religion. Fin de citation. Le Ch'as a choisi de frapper un grand coup de poing sur la table en mettant dans la balance la démission du ministre de l'Intérieur contre celle du ministre de l'Éducation. Son départ aurait remis en cause le fragile équilibre au sein de la coalition au pouvoir, donc la poursuite même des négociations de paix engagées par l'actuel gouvernement. L'Everest a tué la première femme népalaise à l'avoir vaincue. Il s'agit de Pasang Sherpa qui a finalement foulé les 8848 mètres de l'Everest le jeudi 22 avril. La descente cependant a été un drame. Pasang Sherpa avait 29 ans, elle était mère de 3 enfants et elle n'est donc pas rentrée. Son corps reste toujours disparu. Le réalisateur de cinéma bien connu des BD ou des cartoons, Walt Disney, était en fait un agent du FBI. Walt Disney a servi pendant plus de 20 ans d'indicateur à la Sûreté fédérale américaine, le FBI, selon des documents officiels. Disney avait obtenu le statut d'agent spécial en renseignant le FBI sur des prétendues activités communistes ou subversives de ses pairs à Hollywood pendant le McCarthyisme. Ah, maintenant, vous avez tout compris pourquoi Mickey a des si grandes oreilles. « En Suisse, les homosexuels protègent et collectionnent leur passé. Zurich accueille depuis quelques jours les premières archives suisses consacrées à l'histoire des homosexuels. À l'instar du mouvement féministe, le mouvement homosexuel a désormais sa place aux archives sociales suisses de Zurich. Bibliothèques, articles de journaux, tracts, brochures, journaux intimes, correspondances, photographies sont officiellement réunis pour la première fois. Toute l'histoire suisse des homosexuels mise à disposition d'un public aussi vaste que possible. Comme tous les mouvements, les homosexuels ont besoin de se concentrer sur leur passé. Ces archives leur permettent d'avoir une image historique d'eux-mêmes, une image totale, explique Michel Dante, porte-parole de l'aide suisse contre le sida. C'est justement pour que ces archives soient traitées et utilisées comme une source historique que le service de coordination homosexualité et sciences de Zurich, qui a initié ce projet, s'est assuré la collaboration de plusieurs spécialistes. Une chose est sûre, on peut penser que l'existence de ces archives participe à la reconnaissance des homosexuels par la société. La broche Soleil lancée par Christiane Brunner est un véritable succès commercial. Ces derniers temps, plus de 20 000 petits soleils souriants ont été fabriqués dans une fabrique au Locle, dans le canton de Neuchâtel. Plus de 3 000 broches sont réalisées tous les mois, de plus par une entreprise tessinoise. En outre, l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, l'OSEO, en a vendu près de 4 000 au bénéfice des chômeuses. Contre-coup de cet engouement, des grands magasins vendent des soleils estampé à l'étranger. Au départ, il y a donc cette démarche individuelle. Christiane Brunner reçoit un petit soleil en cadeau. Le soleil sera son emblème durant sa course au Conseil fédéral et ensuite repris par Ruth Dreyfus. D'attribut du féminisme, le soleil est devenu aussi symbole de la solidarité puisque plusieurs de ces des ventes de ces soleils, le profit de la vente a été ensuite reversé à des actions pour les femmes. Ainsi, comme on l'a dit, l'OSEO en a vendu au profit des chômeuses. Et environ 4000 pièces ont été ainsi achetées. Dans le canton de Soleure, des programmes de formation pour femmes ont été ainsi financés. Ces petits soleils souriants, qui sont inspirés du folklore appenzellois, sont une aubaine pour l'entreprise Huguenin du Locle. Elle en fabrique depuis une trentaine d'années. D'ordinaire, quelques milliers de pièces en laiton sortent chaque année des ateliers. Cette fois-ci, il y en a eu plus de 20 000. Certaines chaînes de magasins déclinent aussi cet astre sous forme de pendentifs, clips ou broches de différentes qualités. Il y a une semaine, la société Manor en a passé commande en Allemagne et en Extrême-Orient. Dans les magasins Yelmoli, les broches soleil sont en rupture de stock. On espère en tout cas que dans toutes ces entreprises, les femmes, les employées féminines seront bien traitées et ne serait-ce pas le moment de nommer une femme PDG. En parlant de Christiane Brunner, elle s'est scandalisée face à une publicité qui utilisait son image. Il s'agit d'une publicité faite par l'entreprise Fleurope Interflora qui a demandé aux lecteurs d'apporter leur soutien à, je cite, « la nouvelle mère Courage », donc d'envoyer des fleurs à Christiane Brunner pour la fête des mères. Madame Brunner a répondu qu'elle ne souhaitait pas recevoir des fleurs, mais, je cite, « que toutes les femmes en Suisse obtiennent un congé maternité payé de 16 semaines et une véritable protection de la maternité ». La conseillère nationale assure que Fleurope n'a pris aucun contact avec elle, qu'elle n'a pas donné d'autorisation pour utiliser son nom et sa photographie à des fins publicitaires. Mari d'une maman de jour, il abusait des enfants confiés à sa garde. On reproche à cet homme d'avoir mis en scène des jeux pornographiques avec deux jeunes garçons confiés à la garde de son épouse, allant jusqu'à éjaculer sur le ventre nu du cadet. C'est un changement de comportement des enfants qui ne dormaient plus, qui étaient très angoissés, qui a alerté les familles. Pendant le procès, le prévenu, farouchement soutenu par son épouse, a nié en bloc les faits qui lui étaient reprochés. Bien que sûr qu'un des gosses au moins avait été confronté à des scènes sexuelles, mais estimant que le faisceau d'indices n'était pas suffisant pour établir la culpabilité du prévenu, le procureur a finalement décidé de libérer l'homme. Une infirmière jugée pour la mort d'un bébé, elle s'était trompée de sachet lors d'une transfusion sanguine. Elle a été reconnue coupable d'homicide par négligence et a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans à Neuchâtel. Elle s'était trompée de sachet de sang en faisant une transfusion à un bébé atteint d'une maladie très rare. Les faits datent de janvier 1992. Par comparaison, le docteur Mégevan, qui... on pense sous l'emprise de l'alcool, a en tout cas tué une femme, si ce n'est pas 4 personnes sur la table d'opération, lui est toujours libre. À Genève, le comité contre le harcèlement sexuel propose une nouvelle procédure pour traiter des problèmes de harcèlement sexuel à l'État. Fort de son expérience, le comité a donc concocté un projet de loi réformant une procédure d'enquête jugée inadaptée. Les plaignantes, en effet, actuellement, n'ont pas le droit d'être assistées, elles n'ont pas accès au dossier, elles ne disposent pas de voie de recours. Pour le comité contre le harcèlement sexuel, appuyé par certains syndicats comme le CIT et la VPOD, la procédure d'enquête administrative qui est en vigueur actuellement en cas de harcèlement sexuel à l'État est totalement inadaptée. Telle est la leçon tirée de la récente affaire qui a agité le service de santé du personnel de l'État. Le comité s'est mis donc à décider de travailler sur un projet, sur une réforme de cette loi directement. Le projet présenté commence par une définition du harcèlement, quelques articles concernant la prévention. Le projet ensuite s'attaque à la procédure de plainte. Le comité imagine une étape de médiation destinée à parvenir à une solution à l'amiable pour éviter une procédure longue et pénible pour tout le monde. Si cette médiation échoue, la personne plaignante pourrait alors demander l'ouverture d'une enquête administrative, enquête menée par une commission composée d'un ou d'une juge du tribunal et de 2 personnes désignées respectivement par le Conseil d'État et par les syndicats. Le projet institue une symétrie entre les droits de l'accusé et des plaignantes, donnant donc à ces dernières le droit d'être assistées, d'avoir accès au dossier et de faire recours. La tendance actuelle est de renvoyer les affaires de harcèlement sexuel devant un tribunal pénal. Mais ces dispositions actuelles ne règlent rien sur le lieu de travail et supposent donc que la femme victime du harcèlement sexuel donne son congé ou soit renvoyée. À Genève, veillée électorale, les partis préparent leurs candidats. Et la droite, après avoir beaucoup parlé des femmes et de l'importance qu'elles ont dans un parti, les renvoie à leur strapontin, si ce n'est à leur fourneau. La politique, quand même, c'est sérieux, c'est une affaire d'hommes. Ainsi, les radicaux ont choisi un ticket masculin pour l'exécutif. Il s'agit de M. Segon et de M. Ramseyer. Ils ont écarté la candidature féminine de Mme Sautan. Quant aux démocrates chrétiens, ils ont misé sur Jean-Philippe Maître et Philippe Joy. On ne sait toujours pas les candidats des libéraux, mais pour l'instant, la droite ressemble beaucoup à un complet cravate. En Suisse, la récession menace d'abord les employés à temps partiel. Alors que le nombre des travailleurs à temps partiel a augmenté énormément entre 85 et 91, elle stagne depuis le début de la crise. La crise frappe durement les travailleurs à temps partiel. Ils sont en général les premiers touchés par les mesures de licenciement. Une menace qui pèse bien sûr avant tout sur les femmes, puisque quelque 55% des travailleuses en Suisse sont engagées à temps partiel. En règle générale, les employeurs privilégient en ce moment le maintien de leur effectif de base aux dépens de leurs employés à temps partiel. La secrétaire de l'Union syndicale suisse, Marguerite Meyer, relève que la pratique actuelle est de supprimer en priorité les emplois à temps partiel. Elle remarque aussi une tendance, pourtant contradictoire, à transformer des emplois à plein temps en activités à temps partiel. Selon Marguerite Meyer, les jobs à temps partiel ne constituent pas un moyen apte à faire diminuer le nombre des chômeurs. La solution passe pour elle par une réduction générale des horaires de travail. Le plus souvent, les emplois à temps partiel ne bénéficient en effet pas de protection contractuelle définie entre partenaires sociaux ni de deuxième pilier et se situent pour la plupart au bas de l'échelle sociale. Dernier des cantons latins, Fribourg projette enfin de créer un bureau d'égalité entre femmes et hommes, ainsi qu'une commission chargée de la politique familiale. Le gouvernement propose de mettre 200 000 francs par an à sa disposition. La majorité des enfants noirs aux États-Unis a vécu une partie de leur enfance dans la pauvreté. Tels sont les résultats d'une recherche de l'Université de Michigan. Seuls 33% des familles noires n'ont jamais eu à souffrir de la misère, contre 74% des familles blanches. Et pour terminer, et je vais essayer de vous dire cela avec une voix très très grave, il semble que les femmes ont une voix de plus en plus grave. Beaucoup plus grave aujourd'hui qu'en 1945, c'est ce qu'a révélé des chercheurs sur la base de vieux enregistrements. Cette évolution s'expliquerait par un surcroît de maturité et d'autorité dans la population féminine. Waouh ! Bonsoir. Radio Pleine Lune, c'était les nouvelles sur 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. Bonsoir, Marjolaine pour vous présenter le Memento de Radio Pleine Lune, bien sûr, comme tous les mercredis. Alors j'ai plein de coups de cœur, plein de choses se passent à Genève, et certaines je les ai vues, d'autres je les verrai. Et je vais tout de suite vous annoncer pour vendredi 14 un spectacle qui s'intitule Création 93. C'est de la chorégraphie, c'est Laura Tanner, sur une musique de Christian Ostreicher, avec bien sûr des costumes et des choses de la... C'est toujours à voir, hein. Laura Tanner, c'est à découvrir. Ça s'intitule « Au milieu de nulle part ». C'est probablement un rêve à découvrir. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai vu, puisque c'est du 14 au 19 mai à la salle Patignot et c'est à 20h30.